Les meeples sont de sortie, c'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique les amis, on est le lundi 24 février, alors un C'est Ludique un petit peu particulier, oui puisque ça va être une semaine assez courte, aujourd'hui et demain, puisque après vous le savez, c'est le Festival International des Jeux de Cannes, je vais aller sur place pour vous préparer de nouveaux numéros de C'est Ludique jusqu'à la fin de l'année. Alors aujourd'hui, comme c'est lundi, c'est le début de la semaine, j'ai envie qu'on se mette bien, vous êtes à table, et bien pourquoi pas un petit menu asiatique. C'est ce que je vous propose dans un instant. Et puis on retrouvera Ludo pour nous parler du point sur les J. Une question autour du jeu de société. C'est Ludite, ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner. Matt, pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu donc aujourd'hui, c'est Ibashi Fire Up, un jeu de Marco Tubner, Arnaud Charpentier, David Harding, illustré par Kerry Atkins, pour 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans, édité par Matago. Alors dans ce jeu d'adresse, vous êtes un chef et vous devez préparer des recettes. Mais pour obtenir les ingrédients, eh bien, il faudra lancer des jetons sur le grill. Alors au niveau de la mise en place, vous posez le plateau qui représente la surface de cuisson, avec dessus les 9 ingrédients, vous avez du poisson, vous avez de la viande, vous avez des nouilles, vous avez du riz. Au milieu, vous avez 4 cases bonus. Chaque joueur prend 4 jetons d'une couleur et 1200 yens. Vous disposez les cartes ingrédients autour de la table et vous révélez 3 cartes recettes. Voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? En commençant par le chef cuistot, le premier joueur, vous allez lancer à tour de rôle vos jetons qui sont percés, sachant qu'ils ont une valeur en dessous. Votre but est de les lancer pour atteindre un ingrédient ou une case bonus sur la plaque de cuisson. Vous pouvez même essayer de pousser les jetons des autres, c'est pas très sympa, mais c'est le jeu et c'est donc permis. Pour qu'un jeton soit valide, il faut qu'à l'intérieur de celui-ci, on voit une partie de l'ingrédient. Par exemple, je vois un bout de poisson, et bien c'est validé. Attention, il y a quelques règles de lancer à respecter. Votre main, par exemple, ne doit pas dépasser le plateau. Une fois que tout le monde a lancé ses jetons, on va passer à la phase de nettoyage de la plaque. On retourne tous les jetons. Ils vont afficher des valeurs. C'est le chef cuisinier qui commence par choisir l'un de ses jetons. Si le jeton a atterri sur un ingrédient, il va pouvoir soit acheter l'ingrédient, soit le vendre s'il a déjà cet ingrédient en stock. S'il l'achète, il doit payer la somme de tous les jetons présents sur le bol. S'il le vend, il récupère la somme de tous les jetons présents sur le bol. Bien entendu, une fois qu'il a joué, on retire son jeton, donc il y aura moins à dépenser pour acheter, mais aussi donc moins à récupérer pour la vente pour le joueur suivant. Gardez bien en secret les cartes que vous achetez. Alors avec les ingrédients que vous avez récupérés, ou si le jeton est sur le grill, vous pouvez valider vos recettes. Pour ça, vous devez donner les 3 ingrédients qui sont sur la carte recette. À tout moment, vous allez pouvoir utiliser aussi du chili. C'est l'ingrédient bonus. 2 chili peut remplacer un ingrédient de la recette. Pour obtenir du chili, il faut que votre jeton ne soit ni sur une case ingrédient, ni sur une case bonus. Si c'est le cas, comme pour les ingrédients, vous pouvez acheter ou vendre du chili. Pour gagner du chili, vous retirez votre jeton et vous prenez une carte. Pour les vendre, vous donnez 2 cartes chili et vous multipliez par 2 le montant du jeton. Attention, dépêchez-vous avant de valider la recette car on l'échange qu'après une nouvelle manche. Donc les autres peuvent vous la piquer. Alors c'est pour ça qu'il faut bien faire attention dans le choix des jetons que vous prenez au fur et à mesure. Je vous ai parlé tout à l'heure de la case bonus. Quand votre jeton arrive dessus, il y a 4 choses possibles selon la case. Gagner un petit pourboire, 3 fois le montant quand même de votre jeton. Choisir un ingrédient de votre choix, réserver une recette, personne ne pourra vous la prendre celle-là, et placer un jeton à l'endroit que vous souhaitez. Vous enchaînez les manches, en changeant bien sûr de chef cuistot. Dès qu'un cuisinier a 3 recettes devant lui, la partie s'arrête, sinon on continue de jouer. Alors ce que j'en pense, voilà un petit jeu original où il faudra avoir de l'adresse pour placer ou déloger les jetons. Je connaissais pas le jeu, d'ailleurs le classique qui était Ibashi, donc je peux pas vous dire ce que ça change, mais j'ai cru comprendre quand même que les règles ont été un petit peu simplifiées. Alors une chose est sûre, avec Ibashi Fire Up, vous allez passer un bon moment autour de votre table de cuisson, et même les non-joueurs vont apprécier d'y jouer. C'est ce qu'on appelle un jeu universel. Si vous êtes à Cannes, allez le tester, vous passerez un très bon moment. Pour moi, dans le type de jeu d'adresse dextérité, il devient un incontournable. Voilà, c'est Ibashi Fire Up et c'est édité par Matago. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo pour le point sur les J.
C'est c'est la pause du midi. Il te tente son avis. C'est ludique, c'est ludique, c'est le point sur les J.
Le point sur les J, c'est tous les lundis avec Ludo. Et on va retrouver Ludo juste avant son départ pour Cannes. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous. Et oui, effectivement, je suis pas loin de partir. Alors je pars à Toulouse et après je pars à Cannes.
Ah d'accord, tu fais un petit peu, tu visites un petit peu avant.
Ouais, c'est ça, j'ai un petit pèlerinage avant à Toulouse, obligatoire.
Ça marche. Alors Ludo, aujourd'hui on va parler de Tetris qui a fêté
oui,
ses 40
à l'occasion,
ans l'an dernier.
Exactement Matt, à l'occasion des 40 ans du jeu Tetris, les jeux de polyomino sont de plus en plus nombreux. Est-ce
eh oui.
une mode ou bien autre chose? Alors, déjà, on va parler de Tetris un tout petit peu. C'est un jeu vidéo de puzzle qui a été conçu par l'ingénieur soviétique Alexei Pajitnov à partir de 1985 sur une machine qui s'appelait l'Electronica 60.
D'accord.
Alors, ce monsieur, en cherchant à reproduire l'un de ses jeux favoris qui s'appelle le Pantomino, il imagine un jeu qui consiste en une chute de forme aléatoire à base de 4 carrés que le joueur doit tourner afin de remplir des lignes. Il décide de l'appeler Tetris tout simplement parce qu'en fait c'est la contraction de tétramino et de tennis, qui est son sport favori.
Ok, donc c'est comme ça que c'est devenu Tetris.
Exactement, il réalise alors un prototype sur l'Electronica donc 60 du laboratoire là où il travaille. Alors il n'a pas d'interface graphique, donc il modélise des pièces et le plateau avec des espaces et des crochets à l'ancienne. Le jeu ne possède ni système de score ni niveau, mais c'est suffisant pour rendre l'auteur complètement dépendant de sa propre création. Alors ensuite, le jeu va être développé par des collègues à lui, avec Dimitri Pavlovski et Vadim Gerasimov. Et puis ensuite, ça va être édité par plusieurs sociétés au cours du temps.
Ouais.
Donc il y a une guerre d'appropriation des droits à la fin des années 80. Le déroulement précis du développement et des premières commercialisations est encore débattu dans les années 2010. Hein. C'est pour te dire que ça a traîné cette histoire.
Okay,
donc... Il y a une exploitation très importante par Nintendo et depuis 1996, il y a une société qui détient les droits et qui s'appelle The Tetris Company.
D'accord.
Alors, du coup, 2025, ça sonne donc comme le 40e anniversaire de ce jeu mythique, mais on peut se dire, mais du coup, c'est quoi le rapport avec les jeux de société?
Ah oui.
Effectivement, du coup, il y a une mécanique qui est complètement adaptable aux jeux de société avec le Tetris. Parce que c'est d'arriver à emboîter des pièces de couleurs ou de formes différentes entre elles, hein, pour schématiser un peu, et d'essayer de faire des lignes complètes et ainsi de faire des points supplémentaires. Alors, en termes de jeu de société, cette mécanique, elle est, comme on l'a dit, facilement adaptable. C'est ce qu'on appelle un peu les polyomino, des pièces, avec la plupart du temps en carton, qui sont à emboîter entre elles pour maximiser, en fait, des points de victoire ou un espace de jeu. Et du coup, ça a inspiré beaucoup de jeux depuis des années. Le premier, il date de 1953, en fait, et donc il est bien avant le Tetris, et il s'appelait le Pantominose. C'est celui-là que aimait notre ami russe. Et c'est juste une sorte de polyomino à 5 cases. L'idée, faire des connexions des éléments, donc était déjà là.
D'accord.
Et donc en 1974, un Français, le jeu nommé Le Grand, permet à deux joueurs d'agencer des pièces de différentes tailles sur un plateau en duel de prise de position. Alors depuis, avec la licence Tetris, il y a eu des adaptations plus ou moins officielles. Je vais en citer trois.
Ouais.
Il y a le jeu à deux Tetris en 1989 qui a été édité par la société Tomy.
D'accord.
Qui n'existe plus maintenant. Tetris Tower 3D en 2003 chez Famosa, qui se rapproche du Puissance 4 avec sa verticalité.
Okay.
Et le Tetris Link en 2011, qui permettait de jouer jusqu'à 4 joueurs.
D'accord.
Du coup, il existe aussi une série importante de jeux qui sont devenus des classiques et qui ressemblent fortement à l'original. Il y a Ubongo qui est sorti en 2003 qui permet de s'affronter lors d'une course de pose de polyomino en multijoueur avec la primeur des points de victoire au plus rapide. Et donc ça, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, une nouvelle version chez Yellow.
D'accord.
Il y a une autre version qui est assez similaire, qui existe aussi chez Jeco, qui s'appelle Polissimo Challenge. C'est une version à partir de 7 ans et qui n'utilise que des pantamino et des hexamino. On rentre dans le côté technique et projet L. Je sais pas si tu as
trouvé
un financement participatif en 2020 à la base, qui nous proposait une version deluxe de l'assemblage rapide de polyomino grâce à ses pièces en acrylique et des petits plateaux double couche du meilleur effet.
Et puis on a un jeu Ludo qui arrive chez Atalia ou qui est déjà sorti, je ne sais pas, mais qui s'appelle tout simplement Tetris.
Et oui, bah disons que on va revenir en fait avec celui-là, avec la licence, à des choses beaucoup plus similaires, comme ouais. quoi, bah tu vois, on boucle hein, un petit peu et que ce phénomène n'est pas prêt en fait d'être abandonné.
C'est sûr. Alors,
on peut aussi détourner le matériel aussi pour faire certains jeux, comme l'a fait l'excellent Blocus en 2000.
Ah oui.
Qui nous permet de jouer nos formes, non pas en les imbriquant, mais en les connectant uniquement par les coins, pour gagner du terrain et bloquer la pose des pièces adverses. On a eu Jetpack Joyride aussi, qui était une adaptation par Lucky Duck Games, qui permet aussi une utilisation originale des polyominos, parce qu'en fait, ça va simuler une avancée frénétique vers l'avant, en récoltant des bonus, comme sur un jeu vidéo d'ailleurs, ou sur ton mobile. Et ça, c'était pas mal. Après, on a aussi Cartographeur, qui permet d'adapter ce matériel au format Flip and Write.
Ouais.
En effet, les joueurs vont devoir, comme tu le sais bien, parce que je crois que c'est un jeu que t'aimes bien, hein,
oui,
Cartographeur.
Oui, j'aime bien Cartographeur.
Ils doivent reproduire des pièces colorées sur leur feuille de jeu, et même parfois sur la feuille des autres joueurs, ça fait grincer un petit peu les dents.
Un des premiers jeux, Ludo, que j'avais joué justement en dessinant des formes de Tetris, alors c'est un petit jeu, je ne sais pas s'il existe toujours, ça s'appelle Seconde Chance.
Oui, je pense qu'il existe.
Il existe toujours.
En occasion,
ouais.
Avec une boîte blanche.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, on pouvait, si on perdait, on pouvait recommencer. On avait une seconde chance.
Voilà, exactement.
Mais on va en parler parce que je crois que l'auteur, je vais en parler dans ma rubrique. Il y a le très récent aussi Art Society qui a été localisé aussi par Lucky Duck Games, qui va associer donc la connexion de polyomino de taille avec des tailles et des formes très variées pour le coup là, pour élaborer un mur de tableau, donc avec une thématique très très présente, comme quoi on peut aussi y adjoindre une thématique très forte et non pas que du jeu abstrait, parce que Tetris, effectivement, c'était purement abstrait. Alors, il y a de plus en plus de jeux récents hein, qui kidnappent cette mécanique pour en faire un seul élément du jeu, mais qui n'est pas l'élément central. Par exemple, on a Silicon Valley chez Matago, Planet Unknown, chez Ori Games, The Magnificent encore chez Matago, Planta Nubo chez Super Meeple ou Fist of Odin aussi
My
chez
City aussi.
Où en fait on va avoir
il y en a
donc,
plein.
Il y en a beaucoup. On a des auteurs spécialisés, on va en parler de deux. On a Uwe Rosenberg qui depuis son patchwork en 2014, il s'amuse littéralement avec l'utilisation des polyominos dans une grande partie de ses jeux.
Ouais.
Alors il faut dire avec plus ou moins d'intérêt hein, les jeux, mais après patchwork, il a fait Spring Meadow, Patchwork Doodle, Seconde Chance justement, New York Zoo, Indian Summer, Cottage Garden et le plus récent Tangram City qui il y a deux gros autres jeux hein, il a fait aussi je crois Planta Nubo, il a participé aussi dessus. Donc lui il recycle un petit peu, hein, il réadapte, il recycle un peu, il essaie de remettre un petit peu, il y a du bon, il y a du moins bon. Et puis il y a un autre auteur là qui m'attire beaucoup aussi dans l'utilisation de cette mécanique, c'est Phil Walker Harding, cet auteur australien qui se définit comme un auteur de jeu facile à apprendre et socialement engageant à jouer. Alors, même s'il crée des jeux avec des mécaniques qui sont très différentes et multiples, il a dans ses bagages de nombreux jeux qui font déjà la part belle au polyomino. Donc, il a fait Baron Park, Monolith, Liamaland, Cities, chez Devian. Et donc, il a aussi fait un jeu, lui, chez, je crois que c'est Tetris en 2021, chez Buffalo Game aussi.
D'accord.
Comme quoi. Du coup, on arrive sur la fin.
Mais oui.
Non. Pour boucler, donc il y a une mécanique qui est installée dans le paysage ludique mondial. On peut pas y passer à côté. Il y a beaucoup de jeux tous les ans en fait qui sortent avec cette mécanique-là. Et Tetris est rentré tellement dans la culture populaire et sa notoriété dépasse même celle de la sphère vidéoludique pour le coup. Le jeu fait également l'objet de différents travaux et de recherches. Tu sais qu'il y a des universitaires qui ont analysé sa complexité théorique.
Ah ouais.
Et il y en a d'autres qui ont montré les effets sur le cerveau. Et notamment qui ont appelé ça l'effet Tetris. Est-ce que
D'accord.
tu sais ce que c'est?
L'effet Tetris, non,
ouais.
c'est imbriquer ses idées peut-être, imbriquer ses
Alors
idées.
Non, en fait, l'effet Tetris ou le syndrome Tetris survient lorsqu'un individu consacre tellement de temps et d'attention à une activité que cette dernière commence à modeler sa pensée, ses images mentales et ses rêves. Le nom du syndrome s'inspire du jeu vidéo Tetris.
D'accord.
Grosso modo, tu joues à un truc, tu penses la nuit, et ben tu as le syndrome Tetris. Désolé de te l'apprendre.
Ah bah merde.
Alors, comme on dit, facile à comprendre mais compliqué à maîtriser, la mécanique d'optimisation de l'espace en un temps plus ou moins long est très efficace chez beaucoup de monde. Mais attention, si elle est amenée dans son plus simple appareil, alors il se peut que la lassitude vous gagne, parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Hein. Cette mécanique de remplissage du vide est comme innée chez beaucoup de joueurs, et la simple vue désormais de ce type de pièces de jeu nous indique tout de suite que nous allons devoir associer ces petites pièces entre elles afin de gagner des choses ou d'avancer dans le jeu, et ce, quelle que soit la mécanique ou le genre du jeu. Parfois, on a un petit carré comme ça sur un plateau de jeu, et on se dit « Ah, on va devoir y mettre des pièces dessus ». Je suis persuadé que le style Tetris ne disparaîtra pas de sitôt, et qu'on reverra ces défis au détour de nos tables de jeu, et que ces petites pièces en carton, en plexi, ou bien même agrissonnées sur une feuille, nous donneront encore, pour bien longtemps, des maux de tête. Et d'ailleurs, devant son ordinateur, au fond de son bureau, dans la froideur de la Russie soviétique, notre ami Pajitnov n'a pas inventé qu'un seul jeu vidéo pour en distraire ses collègues. Il a offert à des millions de joueurs des heures de plaisir et de souffrance intellectuelle. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire du Tetris, qui est digne d'une aventure de James Bond, je vous conseille le film Tetris, qui est sorti en 2023.
Ah oui, il y a un film aussi.
Et revient sur le développement du célèbre jeu vidéo et la bataille juridique qu'il y a eu.
D'accord.
Et d'ailleurs, bon, on en reparlera une prochaine fois, mais tu sais comment elle a été créée, toi, la musique du jeu ?
Ah non, pas du tout.
Ah non, bah, je pense que c'est une bonne douzaine de pages encore.
D'accord, ok. Excellent. Merci beaucoup, Ludo. Donc, ça y est, le départ pour Cannes, c'est dans une heure à peu près ?
Ouais, dans une heure. Une heure et demie de car, une heure de train un peu plus, et puis on arrive à Toulouse, on passe la nuit tranquille avec les copains, et puis demain matin on part à Cannes.
Donc tu vas jouer ce soir, bien sûr.
Un peu, sûrement, bien sûr. Oui.
Et après, donc, direction voiture à Cannes ?
Direction voiture à Cannes, ouais.
Ok. Est-ce que tu as déjà des petites idées de ce que tu as envie de voir ?
Ah, j'en ai pas mal. Allez. 3-4 comme ça là.
Ouais.
J'ai un petit jeu là qui nous vient du Canada qui s'appelle Golfy.
Ouais.
Qui est un petit jeu du jeu du golf, mais avec j'adore la thématique du sport du golf.
D'accord.
Bon, le Flip 7 chez Ketchup Games qui commence déjà à faire beaucoup parler de lui. En un peu plus gros, j'ai Wondrous Creatures chez Super Meeple.
Ouais.
Celui-là m'a l'air pas mal aussi. J'ai Mesos chez Gigami.
Très bon Mesos, ouais.
Le Jungo chez Cocktail Games et le Symbiose chez Subverti.
Ouais.
On continue un petit peu. Je vais avoir le Medical Mystery New York Service d'Urgence chez Yellow. Et Agent Avenue, bien sûr.
Ah bah bien sûr.
Faut pas la rater.
Ouais.
Le Zenith chez Playpunk. Pour l'instant, j'y joue beaucoup sur BGA.
D'accord.
Daydream chez un petit éditeur qui s'appelle Tisto Studio.
Ouais.
Celui-là, à mon avis, il va claquer aussi. Royal Society of Archaeology chez Atalia.
Et
puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre mais celui-là, je ne sais pas si on va le voir. Il y a Légion chez Bombix, qui est un jeu de joueurs. Toi, tu connais un peu Bombix.
Possible.
Ouais, le Garden Rush chez Space Coast. Je trouve que c'est un peu plus pour les enfants.
Non, pas du tout. Alors non, ça n'a
rien
à voir.
Ah non, tu as raison, rien à voir. C'est pas chez les enfants.
C'est enfantin, effectivement, au niveau des illustrations, mais c'est
mais
pas
c'est
du tout.
C'est quand même chez Space Coast.
Non, c'est Space Coast Boys.
Ah bah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir.
Bon, t'as quelques rendez-vous du coup, Ludo, je suppose.
Ouais, et Paperworld chez Lumberjack aussi.
Ouais.
Ça a l'air pas mal.
Bon, il y a plein mal de choses. Eh ben, ça me permet d'enchaîner puisque demain, Anne-Gaëlle sera avec moi pour me dire justement tous les jeux qu'elle a envie d'aller voir du côté de Cannes.
Bon, j'espère qu'on en aura en commun. Quand
je pense, ouais, je pense. Merci, Ludo, et à très vite.
Bonne semaine.
Salut.
Salut.